France Culture, il est midi et demi. Le journal Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Les acteurs du secteur automobile sont reçus depuis ce matin à Bercy, une réunion pour préparer l'avenir de la filière confrontée à la crise du diesel, mais aussi aux enjeux de la transition écologique. Et puis s'agissant toujours d'environnement, la secrétaire d'État à la transition écologique et solidaire, Brune Poirson, a elle assuré ce matin que la fermeture des 4 centrales à charbon françaises d'ici la fin du quinquennat était toujours d'actualité.
Dans votre journal également, Thomas Cluzel, Bernard Tapie, qui est jugé à partir d'aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Paris, aux côtés de 5 autres prévenus.
Et au cœur de ce procès, l'arbitrage rendu en 2008 en faveur de l'ancien homme d'affaires dans son contentieux avec le Crédit Lyonnais sur la vente du fabricant d'équipements de sport Adidas, c'était en 1993.
L'invité de la rédaction dans une dizaine de minutes.
Jérôme Fourquet, politologue, directeur du département L'Opinion de l'IFOP et auteur de L'Archipel français, publié aux éditions du Seuil.
L'actualité à l'étranger, à présent la Chine, mais aussi l'Indonésie, ont demandé aujourd'hui à leurs compagnies aériennes de suspendre les vols de Boeing 737 MAX 8. Et ce, au lendemain du crash d'un appareil de ce type en Éthiopie.
Oui, à cause de cette catastrophe qui a fait 157 morts ne sont toujours pas connues. En revanche, ce matin, les deux boîtes noires de l'appareil ont été retrouvées. Enfin, toujours à l'étranger, deuxième journée de grève de protestation ce lundi en Algérie contre la candidature du président Bouteflika. Puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Et ce sera aussi l'Algérie, le thème de cette grande table des idées, avec aujourd'hui en invité le politiste Nedjib Sidi Moussa de l'université Paris 1 et par téléphone d'Alger, le romancier et journaliste Adlan Mehdi, auteur de 1994, vaste mobilisation. Depuis vendredi, ce week-end encore, des appels à la grève. Alors après la rue, les urnes, en ligne de mire, l'élection du 18 avril, on en parlera avec nos invités.
Merci et à tout à l'heure. En réunissant ce matin à Bercy tous les acteurs de la filière automobile, des constructeurs aux équipementiers, en passant par les représentants syndicaux, mais aussi les présidents de région, Bruno Le Maire aura sans doute eu la douloureuse sensation de devoir ainsi troquer son costume de ministre de l'économie pour la blouse d'un urgentiste au chevet d'une multitude de patients, tous atteints de la même vilaine toux chronique et qui regardent désormais leur avenir avec pessimisme. Après des années de croissance et de profits records, la conjoncture du secteur s'est brutalement retournée sous l'effet non seulement des guerres commerciales à l'échelle mondiale, mais aussi sur fond de nouvelles réglementations liées aux contraintes écologiques, sans oublier le contre-coup du fameux Dieselgate sur la manipulation des émissions polluantes. Hakim Kasmi, bonjour.
Bonjour Thomas Cluzel.
La réunion de ce matin a donc pour objectif de définir un plan d'action pour rendre possible une transition en douceur de la filière, étant entendu que les motorisations au gazole, dont les constructeurs français s'étaient fait une spécialité, feront l'objet d'une attention toute particulière.
Et oui, un chiffre, les ventes de voitures diesel ont littéralement plongé. Aujourd'hui en France, elles ne représentent plus que 39% des ventes contre 73% il y a 7 ans. Et ce n'est pas la reprise des ventes de voitures à essence qui permettra à elle seule de compenser les pertes d'emplois, ni les voitures électriques sur lesquelles compte le gouvernement pour assurer la transition écologique. Même si PSA et Renault doivent lancer de nouveaux modèles électriques et hybrides à la fin de l'année, l'électrique pur ne représente que 1% des ventes en France, avec un gros inconvénient qui est que pour la fabrication de ces véhicules, il faut 40% de main-d'œuvre en moins. Et la reconversion vers l'essence ne suffira donc pas à elle seule, d'où un risque très important sur le plan social.
Alors effectivement, outre les défis technologiques que pose la suppression progressive de ce diesel, l'autre question liée à cette mutation concerne évidemment l'emploi. D'ici 2030, Hakim, on parle déjà de quelques 15 000 postes susceptibles d'être menacés dans les usines de production.
Et oui, Thomas, et même dans un avenir très proche, ce sont même 5 500 postes qui sont menacés, avec 6 établissements à traiter en urgence et une trentaine d'autres très fragilisés, à commencer par le site de Bosch à Rodez, en Aveyron, ou encore de celui des fonds du Poitou. À terme, ce sont donc toute la filière qui est menacée, aussi bien chez les constructeurs que chez les sous-traitants, sur l'ensemble du territoire. La transition du véhicule électrique ne suffira pas elle seule. Il faudra aussi compter sur le véhicule autonome qui pourra compenser certes des emplois perdus dans le diesel, mais cela ne suffira pas.
Merci Hakim Kasmi. Transition écologique toujours et encore avec le report de la présentation au Conseil des ministres ce matin du projet de loi sur l'énergie prévu initialement ce lundi. Un report que l'exécutif justifie pour permettre de rendre le texte, je cite, plus ambitieux et plus clair sur les objectifs climatiques de la France. Il faut dire que la formulation même de ces nouveaux objectifs fait l'objet depuis quelques semaines de vives critiques chez les défenseurs de l'environnement, que ce soit de la part des ONG mais aussi du Conseil économique polémique sociale et environnementale qui tous pointent le bilan jusque-là contrasté de celui qui en septembre dernier a pourtant été sacré par l'ONU champion de la Terre, comprenez Emmanuel Macron. Véronique Roberotte, bonjour.
Bonjour.
Alors soucieux malgré tout de faire vibrer le slogan du président « Make our planet great again », le gouvernement a confirmé ce matin que la France fermerait bien ses 4 dernières centrales à charbon d'ici à 2022. Pourquoi, Véronique, réaffirmer ce que l'on savait déjà?
Alors pour mieux s'en convaincre et convaincre aussi déjà les syndicalistes d'une des centrales, celle de Cordemais en Loire-Atlantique. François de Rugy a rencontré les syndicalistes en janvier dernier. Ils sont mobilisés contre la fermeture du site. Ils ont demandé des ajustements, des dérogations. Et puis surtout, les fermetures des centrales à charbon en France sont sacrément conditionnées. Les conditions ne sont pas réunies en matière de sécurité d'approvisionnement en électricité, ne le seront en 2022 qu'à condition que l'EPR de Flamanville fonctionne, que la centrale au gaz de Landivisiau soit construite malgré l'opposition sur place, que les visites décennales des centrales nucléaires se soldent par des autorisations de prolongation de la vie des réacteurs et aussi qu'une véritable, une vraie politique d'économie de maîtrise de l'énergie soit mise en place. Pas impossible, mais le gouvernement doit entraîner dans son objectif, dans son sillage, beaucoup de monde. Le gouvernement y travaille, selon Brune Poirson, la secrétaire d'État auprès du ministère de la Transition écologique, était ce matin l'invité de nos confrères de France Info.
C'est un engagement du président de la République. Ça a été répété par ensuite les deux ministres d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot, puis François de Rugy. Et c'est bien sûr toujours d'actualité. On y travaille d'ailleurs de façon intense. Parce que ce n'est pas facile. Vous savez, il y a 1 million de personnes qui ont de l'électricité grâce, on va dire, même si c'est pas forcément le mot le plus approprié, mais grâce à ces 4 centrales à charbon. Donc c'est une décision qui n'est pas anodine, qui est très courageuse, qui est difficile aussi parce que derrière il y a des emplois, des personnes, des familles qui vivent du travail qui est effectué sur ces centrales à charbon.
Voilà, ces fermetures, tout ça bien sûr ne pourra se faire sans développer parallèlement fortement les énergies renouvelables. Or la France n'est pas vraiment en avance dans le domaine.
Merci Véronique Roberotte. Et pour clore ce chapitre consacré à l'environnement, j'ajoute que le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, a lui annoncé ce matin que des débats sur l'environnement seraient organisés dans tous les lycées de France vendredi prochain, jour de la grève mondiale des élèves pour le climat. À une semaine de la fin du grand débat national, cette fois-ci, les Gilets jaunes ont eu du mal à imposer leur tempo. Ce week-end, les manifestations de samedi ont rassemblé moins de 29 000 militants, soit le plus bas niveau de mobilisation jamais enregistré depuis l'éclatement des revendications et des cortèges. Reste à savoir s'il s'agit d'un véritable essoufflement du mouvement ou d'une respiration avant la grande journée nationale du 16 mars. Seule certitude, cette journée marquera bien tout à la fois les 4 mois de la naissance du mouvement et la fin officielle donc de la grande consultation nationale initiée par le chef de l'État. Et pour évoquer cette actualité française, invité du journal aujourd'hui, Jérôme Fourquet, politologue, directeur du département L'Opinion de l'IFOP et auteur de L'Archipel français, naissance d'une nation multiple et divisée, publié aux éditions du Seuil. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et à mes côtés pour vous interroger, Stéphane Robert, chef du service politique de la rédaction.
Bonjour,
bonjour Stéphane. Avant de nous intéresser plus particulièrement à votre ouvrage, monsieur Fourquet, comment faut-il, selon vous, appréhender la fin donc de ce grand débat national? On imagine qu'avec des centaines de milliers de contributions, le tri qui en sera fait par le gouvernement sera nécessairement l'objet de contestations.
Alors effectivement, même si des outils technologiques vont être déployés pour faciliter cette analyse et ce dépouillement, il y aura sans doute également des contestations sur la représentativité des personnes qui se sont exprimées dans le cadre de ce grand débat, puisque si on fait du jargon quelques secondes, il y a une différence entre un sondage qui est réalisé auprès d'un échantillon représentatif, un modèle en miniature de la population, et une consultation, comme c'était le cas dans ce grand débat, où le public qui va participer le fait de son libre choix et n'est pas forcément représentatif de la population globale. Hein, quand on regarde ne serait-ce que les cartes qui calcule le nombre de participants au débat ramené à la population de chaque département, on s'aperçoit que, comme vos confrères du Parisien l'ont montré hier, on a toute une partie de la France du Nord-Est, par exemple, qui, historiquement maintenant, vote assez régulièrement pour le Front National, qui a des taux de participation au grand débat qui sont très en deçà de la moyenne. Et inversement, une France de l'Ouest, une France des grandes villes, où le nombre de contributeurs ramenés au nombre d'habitants est significativement supérieur à la moyenne. Donc il y aura aussi des débats sur qui s'est exprimé, et on peut penser que cet exercice de démocratie participative qui par certains aspects, a été réussi, il y a eu quand même un certain engouement, ne peut pas à lui seul résorber la fracture civique et démocratique qui s'est exprimée depuis plusieurs années maintenant dans notre pays.
Une question de Stéphane Robert.
En gros, il ne remplit pas véritablement son office, ce grand débat ?
Alors, je pense qu'il avait comme première mission et premier objectif quand même de faire baisser la pression et la température. Et on voit que par rapport à la situation qui prévalait dans notre pays à la fin du mois de décembre, les choses se sont quand même améliorées, même s'il y a encore des gilets jaunes dans la rue. On a le sentiment que le mouvement marque un peu le pas. Et donc, de ce point de vue-là, le grand débat a eu une vertu. Il a eu aussi comme autre intérêt de permettre à l'exécutif, au ministre, de pouvoir être en contact direct, également au président de la République, avec des élus, avec des citoyens ordinaires. On a également eu l'occasion, dans de nombreuses petites communes, donner aux maires de pouvoir réunir une partie de leur population. Donc tout ça n'est jamais négligeable et à jeter, mais il ne faut pas forcément en attendre la solution, j'allais dire miracle, à toutes les difficultés, à toutes les fractures qui se sont exprimées ces dernières années.
Pour en revenir à votre actualité, à vous, qui est aussi notre actualité, dans l'ouvrage qui est sorti il y a quelques jours, hein, qui s'appelle « L'archipel français » aux éditions du Seuil, vous vous livrez à une autopsie de la société française, et vous montrez qu'on est en train de passer, que cette société est en train de, on est en train de passer à autre chose. Vous montrez une morcellisation, une archipélisation de la société française. Ça se traduit comment ?
Alors, juste pour peut-être expliquer comment on en est arrivé là, on défend l'idée que les grandes matrices structurantes qui ont cimenté la société française depuis des décennies et des décennies, je pense bien évidemment à la matrice catholique d'un côté, la matrice laïco-républicaine de l'autre, et les deux faisaient système, ce ciment-là s'est délité, s'est disloqué, et donc on est aujourd'hui passé d'une organisation, d'une société en silo, hein, avec différentes familles politiques et culturelles qui mélangeaient les différentes catégories sociales, hein, si on prend ne serait-ce que les catholiques, il y avait une bourgeoisie catholique, mais aussi une paysannerie, dans certaines régions, une classe ouvrière catholique, et tout ça tenait, une espèce de coalition électorale qui tenait quand même ensemble. Tout ça s'est désagrégé. On est aujourd'hui passé du silo au millefeuille avec des strates de la population qui sont de plus en plus étrangères et autonomes les unes par rapport aux autres, sans forcément parvenir à poser un diagnostic commun et à être en capacité d'échanger. Ça a été assez clair et assez manifeste, justement au moment des gilets jaunes, de la crise des gilets jaunes, où on a vu sur le terrain, comme sur un certain nombre de plateaux, un peu des dialogues de sourds entre des catégories qui se reconnaissaient dans ce mouvement des gilets jaunes, qui étaient souvent des catégories de la France dite périphérique, des catégories populaires, et puis des gens très diplômés, des grands centres urbains, et qui n'avaient même plus, un début de constat ou de diagnostic commun à partager.
Et donc ce que vous nous dites, c'est ça, c'est en fait que ça part de très très loin, que ça vient d'il y a des dizaines d'années, et qu'on est, on assiste à la fin d'un processus qui est un processus de déchristianisation.
Alors, c'est la matrice initiale, en positif ou en négatif, parce que beaucoup de Français se construisaient en contre ce modèle ou cette référence catholique. On est aujourd'hui, oui, sur un stade qu'on pourrait qualifier de terminal de la déchristianisation de la société française. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de catholiques en France, ils sont encore assez nombreux, mais ils sont une des îles, aujourd'hui parmi d'autres, de l'archipel français, alors que jusque dans les années 60 ou 70 ou 80, le catholicisme était encore constitué, encore une des armatures de la société française. Et donc on le voit à travers des données de sondage, par exemple, quand il s'agit du rapport à la sexualité, du rapport à la procréation avec la PMA, même du rapport au corps entre le choix de l'incinération ou de l'enterrement, le rapport au corps sur le tatouage, par exemple, eh bien on a des jeunes générations qui, aujourd'hui, sont dans un univers mental et psychologique qui est radicalement différent de celui qui prévalait encore il y a quelques décennies et qui est encore en héritage chez les générations les plus âgées. Et donc, on est sans doute à la veille d'un grand basculement que j'ai appelé anthropologique, hein, c'est-à-dire qu'on aura des référentiels qui, en profondeur, seront très fortement chamboulés.
Et les conséquences politiques, ce que vous nous dites, c'est que 2017, c'est pas du tout un hasard, c'est un point de bascule.
Et alors, ce sera la dernière question.
Voilà, et donc 2017, effectivement, on voit que le clivage gauche-droite qui était adossé à ce système de valeurs, système d'opposition, aujourd'hui ne fonctionne plus. Et donc la victoire d'Emmanuel Macron face à Marine Le Pen, Et on le voit aujourd'hui dans les intentions de vote pour les élections européennes, ce sont encore ces deux forces-là qui font la course en tête. Eh bien, ce nouveau clivage qui émerge remplace quelque part le clivage gauche-droite qui n'a pas disparu, mais qui n'est plus le clivage central parce qu'il correspond plus à la réalité sociologique et économique profonde du pays.
Merci Jérôme Fourquet, directeur, je le rappelle, du département L'Opinion de l'IFOP, d'avoir été en direct avec nous. Je rappelle également le titre de votre ouvrage, L'Archipel français, publié aux éditions du Seuil. Merci également à Stéphane Robert. Une peine de prison à perpétuité a été requise ce matin par le parquet à l'encontre du djihadiste français Mehdi Nemmouche, reconnu coupable aux assises de Bruxelles des 4 assassinats terroristes commis en 2014 au musée juif de la capitale belge. Les peines devraient être prononcées au plus tard ce soir. Le verdict ne sera pas susceptible d'appel. Bernard Tapie a-t-il escroqué l'État plus de 10 ans après l'arbitrage qui lui avait accordé 403 millions d'euros pour solder son litige avec le Crédit Lyonnais? L'homme d'affaires est jugé à partir d'aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Paris. Après 10 années de péripéties judiciaires, Bernard Tapie, 76 ans, est soupçonné d'escroquerie et de détournement de fonds publics. Il ne sera toutefois pas la seule vedette de ce procès pénal puisque 5 autres prévenus, Florence Thurm, comparaîtront à ses côtés.
Il y a d'abord Maurice Lantourne, l'avocat historique de Bernard Tapie, renvoyé lui aussi pour escroquerie et détournement de fonds publics, soupçonné d'avoir œuvré en amont pour obtenir le soutien de Pierre Estoupe au sein du tribunal arbitral chargé d'examiner le litige entre l'homme d'affaires et le Crédit Lyonnais. Pierre Estoupe, ancien président de la cour d'appel de Versailles, aujourd'hui âgé de 92 ans, c'est lui qui, selon les juges d'instruction, aurait pris l'ascendant sur les deux autres magistrats chargés de l'arbitrage pour les amener à conclure en faveur de Bernard Tapie et au détriment de l'État. Une décision contre laquelle le Crédit Lyonnais n'a pu engager aucun recours, ce qui a valu à Christine Lagarde, alors ministre de l'économie, de comparaître devant la Cour de justice de la République, reconnue finalement coupable de négligence, mais dispensée de peine. Les 3 autres prévenus devront répondre de complicité d'escroquerie et de détournement de fonds publics. Parmi eux, 2 anciens fonctionnaires à la tête des entités créées pour gérer le passif du Crédit Lyonnais et suspectés d'avoir agi de manière concertée en obéissant à des consignes explicites ou implicites. C'est là qu'apparaît Stéphane Richard, l'actuel PDG d'Orange, directeur de cabinet de Christine Lagarde sous la présidence de Nicolas Sarkozy. On lui reproche d'avoir sacrifié les intérêts de l'État et dissimulé à sa ministre des éléments factuels essentiels à sa compréhension. Stéphane Richard réfute les accusations portées contre lui. Pour lui, peut-être plus encore que pour les autres prévenus, l'enjeu est de taille. Le patron d'Orange serait amené à remettre son mandat en cas de condamnation.
Un nouveau scandale éclabousse la procédure d'attribution de l'organisation de la Coupe du Monde 2022 au Qatar après la révélation hier par le Sunday Times d'un contrat secret passé entre la FIFA et la chaîne de télévision Al Jazeera, propriété de Doha. Ce contrat conclu à l'approche de la fin de la campagne des candidatures, selon des documents diffusés par le journal britannique, prévoyait notamment le versement de 100 millions de dollars sur un compte de la FIFA en cas de désignation du Qatar comme hôte du Mondial 2022. Après 2 semaines d'hospitalisation en Suisse pour des examens médicaux, séjour au cours duquel il aura également fêté ses 82 ans, le président Abdelaziz Bouteflika a finalement regagné hier l'Algérie où la contestation populaire inédite en 20 années de pouvoir a de nouveau porté des milliers de personnes dans la rue. En revanche, face aux appels à la grève et à la désobéissance civile lancés sur les réseaux sociaux, le pouvoir reste toujours étrangement muet. Tout juste, le chef d'état-major de l'armée a-t-il déclaré dimanche dans un discours étonnamment conciliant que l'armée et le peuple algérien partageait les mêmes valeurs et une vision commune de l'avenir. Nadine Epstein, bonjour.
Bonjour.
En réalité, tout le monde est suspendu à la décision du Conseil constitutionnel, lequel doit dévoiler la liste définitive des candidats retenus pour l'élection présidentielle.
Oui, mais ce ne sera que mercredi que le Conseil constitutionnel se réunira pour valider les candidatures à l'élection présidentielle. Et donc, ce début de semaine est crucial et les mobilisations anti-cinquième mandat vont s'amplifier. Dès ce matin, ce sont 1 millier de magistrats qui préviennent qu'ils ne superviseront pas l'élection présidentielle du 18 avril si la candidature du président algérien est acceptée pour la 5e fois. Ils rejoignent ainsi les avocats, les journalistes, les enseignants, les lycéens, les étudiants, les milliers d'autres citoyens qui manifestent depuis 2 semaines aux 4 coins de l'Algérie pour dénoncer que leur pays soit gouverné au nom et dans l'ombre d'un octogénaire malade. Et face face à la population dans les rues. Vous l'avez dit, le chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général Ahmed Gaïd Salah, a déclaré hier, je cite, « Le peuple et l'armée ont une vision commune de l'avenir. Les liens entre l'armée et la population sont forts et spontanés. » Le mot d'ordre de grève générale semble relativement bien suivi. À Alger, les transports sont bloqués, ni train, ni métro, ni tramway, ni bus. Dans plusieurs quartiers commerçants et populaires, les boutiques et les magasins restent fermés. Un employé au siège de la Société Nationale des Véhicules Industriels assure que les 6000 salariés de cette entreprise publique de fabrication de camions et de voitures de secours, tout le monde s'est mis en grève, a-t-il affirmé. Débrayage d'une heure des employés du fournisseur national d'électricité et de gaz. En revanche, aucun vol d'Algérie n'est annulé et la plupart des administrations et des entreprises privées fonctionnent. Demain, les étudiants ont annoncé qu'ils marcheraient à nouveau pour la troisième semaine consécutive.
Merci Nadine Epstein. Au Soudan, la vague de protestations populaires, là aussi sans précédent, initiée le 19 décembre dernier, continue à secouer le pays. Et une responsable de l'opposition a été condamné à une semaine de prison pour avoir tenté d'organiser une marche vers le Parlement contre l'état d'urgence imposé le mois dernier et pour un an dans tout le pays afin d'enrayer le mouvement de contestation qui réclame la démission du président Omar El-Béchir. Après qu'un Boeing 737 de la compagnie aérienne Ethiopian Airlines s'est écrasé hier au sud d'Addis Abeba, faisant 157 morts, l'enquête se poursuit pour tenter de déterminer les causes de la catastrophe. Ce matin, les deux boîtes noires de l'appareil ont été retrouvées. Elles devraient permettre d'en savoir davantage. Ce matin, la Chine et l'Indonésie ont par ailleurs toutes deux ordonné à leurs compagnies aériennes nationales de suspendre temporairement tous les vols opérés en Boeing 737. Il faut dire, Frédéric Beniada, que ce crash, le deuxième en 5 mois impliqué quand un appareil du même type soulève notamment de nombreuses questions quant à la sécurité de l'avion du constructeur américain.
Il y a forcément un malaise chez Boeing, car s'il s'avère que les causes sont les mêmes que sur l'accident de Lion Air, Boeing était au courant de ce problème. La FAA, l'aviation civile américaine, et l'EASA, son équivalent européen, s'en était inquiété. Il y a eu une enquête aux États-Unis, mais selon la presse américaine, selon le New York Times, Boeing a minimisé ce problème, et cela pour des raisons de coût et de formation, et c'est extrêmement grave. Il faut savoir que le 737, c'est le best-seller de Boeing hein, sur le créneau des courts moyens courriers. C'est un avion dans ses différentes versions qui a été vendu à plus de 10 000 exemplaires dans le monde. Le Max, c'est un programme essentiel pour Boeing dans sa concurrence avec Airbus sur le court moyen courrier, avec l'A320, le Neo. C'est plus de 60% de la production totale du constructeur américain à l'horizon 2030-2040. Et forcément, même dès aujourd'hui, les conséquences en bourse seraient énormes. Conséquences dramatiques pour le constructeur américain.
L'Indonésienne de 26 ans, accusée d'avoir participé à l'assassinat du demi-frère de Kim Jong-un en 2017, a été libérée ce matin par la justice malaisienne. Un retournement plutôt inattendu, d'autant que la haute cour devait entendre ce lundi le témoignage de sa co-accusée, une Vietnamienne de 30 ans. Les deux femmes étaient accusées d'avoir tué Kim Jong-nam en lui jetant au visage un agent neurotoxique. Leurs avocats les ont présentées comme des boucs émissaires, assurant qu'elles avaient été piégées par des agents nord-coréens. Sa libération sous caution mercredi dernier n'y changera rien. Le tribunal de Tokyo a rejeté ce matin la demande de Carlos Ghosn de pouvoir assister au conseil d'administration de Nissan prévu demain. Rappelons que même s'il a été démis de ses fonctions de président du groupe automobile japonais, ainsi d'ailleurs que des partenaires de l'alliance Renault et Mitsubishi, Carlos Ghosn reste toujours administrateur des 3 constructeurs. Les précisions à Tokyo de notre envoyé spécial Dominique André.
Le tribunal a refusé la requête de Carlos Ghosn, assigné à résidence depuis sa libération conditionnelle la semaine dernière. Selon son avocat principal, Maître Hironaka, dit le rasoir, l'un des plus grands avocats pénalistes du Japon, Carlos Ghosn souhaitait y participer. En tant qu'administrateur, il en a l'obligation, mais le droit d'y assister lui a été refusé. Le tribunal ne s'est pas étendu, mais on sait que Carlos Ghosn n'a pas le droit de rencontrer les protagonistes de l'affaire, dont les responsables de Nissan, à l'origine de l'enquête qui a provoqué sa chute. Le parquet de Tokyo considère que le système d'assignation à résidence de Carlos Ghosn présente des failles. Le conseil d'administration de Nissan, qui est très attendu, est prévu demain après-midi à Yokohama, dans la banlieue de Tokyo. Carlos Ghosn a perdu la présidence de Nissan juste après son arrestation en novembre dernier. L'ordre du jour n'est pas connu, mais il est question de l'annonce d'un nouveau comité de direction tripartite réunissant Renault, Nissan et Mitsubishi, qui pourrait siéger de façon alternative en France et au Japon. Il a beaucoup été reproché à Carlos Ghosn de concentrer tous les pouvoirs et de ne pas être assez présent à Tokyo. Une conférence de presse est prévue juste après ce conseil d'administration en présence de l'état-major de Renault venu de France avec son PDG Jean-Dominique Senard et le directeur général Thierry Bolloré. C'est une nouvelle page qui pourrait être tournée demain pour mettre fin à la crise Ghosn, mais tout ne sera pas réglé en un jour, préviennent les experts. Il faut encore attendre le procès de l'ancien grand patron de l'automobile qui n'est pas prévu avant plusieurs mois.
Au Venezuela, l'opposant Juan Guaido tirera-t-il parti de la gigantesque panne de courant qui plonge le pays dans le chaos depuis 4 jours? Le président autoproclamé appelle le Parlement à voter aujourd'hui l'état d'urgence dans l'espoir de faciliter l'entrée d'aide humanitaire dans le pays. De son côté, le président élu, Nicolas Maduro, a lui annoncé pour ce lundi une distribution massive d'aliments, d'eau et d'essence. On termine avec un mot rapide de météo et un temps notamment instable sur le nord-est, exposé aux averses partout ailleurs, alternance de nuages et d'éclaircies. Attention toutefois aux violentes rafales de vent sur les Alpes et la Corse. Enfin, les températures, elles seront généralement comprises cet après-midi entre 8 et 18 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Julien Loquet. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.